Pourquoi parle-t-on d'égalité professionnelle sans jamais parler de santé des femmes au travail ? Peut-on vraiment défendre l'égalité salariale, l'accès aux postes à responsabilité, la performance durable, sans regarder l'impact du cycle, de la maternité, de la ménopause sur les parcours professionnels ? Pourquoi ces réalités biologiques et sociales restent-elles encore reléguées à la sphère privée ? Et si le véritable enjeu d'égalité commençait là ? Managers, DRH, dirigeants, salariés, sommes-nous prêts à considérer la santé des femmes non pas comme une question individuelle, mais comme un sujet stratégique d'organisation et de justice sociale ? Bienvenue dans le podcast de l'association Didam Donc. Cette saison s'intitule « Santé des femmes au travail, un enjeu d'égalité professionnelle ». 6 épisodes pour questionner nos pratiques, écouter les réalités vécues et donner des leviers concrets à celles et ceux qui veulent faire progresser l'égalité professionnelle. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'écouter ce premier épisode consacré à la santé des femmes dans le monde du travail. Elle est encore aujourd'hui largement invisibilisée et dans cet épisode, on va parler d'un sujet encore très tabou, la périménopause et la ménopause au travail. On en parle aujourd'hui avec nos deux invités, Marilyn Renard, qui est psychologue du travail spécialisée dans les questions de santé féminine. Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Et Hélène, une femme de 61 ans qui a connu des grosses difficultés au travail au moment de la ménopause et elle est avec nous pour nous partager son vécu, nous livrer son témoignage. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer avec vous, Marilyn. Pour définir un peu le sujet, mieux comprendre les enjeux, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand on parle de santé féminine au travail, de quoi est-ce qu'on parle concrètement ?
Alors, la santé féminine au travail, plus largement, vous aurez remarqué ces derniers temps, ça fait un certain nombre d'années que ce sujet devient central et il est pris plus globalement dans la question de la santé mentale au travail, santé mentale et physique au travail, qui aujourd'hui est une obligation légale faite à l'employeur de préserver la santé de ses salariés avec une obligation de résultat et pas qu'une obligation de moyens. Donc ça me semble important de poser les choses dans un premier temps comme ça. Et puis ensuite, ce sujet de la périménopause et de la ménopause au travail, il est en lien avec la place qu'occupe le travail dans notre société occidentale industrialisée et où en fait on parle de la thèse de la centralité du travail pour signifier que, pour les femmes et pour les hommes hein, d'ailleurs, le travail est une béquille identitaire centrale chez l'individu et lorsque des difficultés apparaissent dans cette sphère, eh bien c'est toute l'identité de l'individu qui est concernée. Donc on n'a pas besoin hein, de parler de périménopause ou de ménopause pour aborder en quoi le travail pourrait aujourd'hui déstabiliser les individus et les femmes, mais lorsqu'on rajoute ou lorsque cette période de notre vie arrive, eh bien cela vient complexifier les difficultés que l'on peut rencontrer dans cette sphère professionnelle.
Pourquoi est-ce que la périménopause et la ménopause, elles sont encore si peu abordées aujourd'hui dans les entreprises, selon vous ?
Enfin, je dirais que ce qui se passe dans les entreprises n'est que le reflet de ce que l'on peut constater dans la société. Dans la société, ce sujet reste encore tabou. Le mot est peut-être un peu fort, mais vous comprenez ce que je veux dire. Regardez d'ailleurs, peu de personnes peuvent dire qu'ils en ont déjà échangé très librement avec leur mère ou même avec des amis. Donc en entreprise, c'est quelque chose qui, de fait, n'est pas abordé aussi facilement qu'on pourrait l'espérer.
Est-ce que selon vous, c'est parce que justement c'est un sujet qui touche à la santé des femmes, qui a toujours quelque chose de compliqué avec la santé féminine. Enfin, c'est vrai qu'on dit souvent que la médecine a été pensée par des hommes et donc pour des hommes et qu'on a peut-être des sujets typiquement féminins comme ça qui sont un peu laissés de côté.
Alors oui, et puis je pense que c'est un... Aujourd'hui, on pèse nos mots, encore plus, je dirais, dans le monde du travail. Surtout lorsque on aborde des sujets qui ont un lien avec le féminin. Donc je pense que tout ça au final ne simplifie pas la communication autour de ce sujet qui peut pourtant être très déstabilisant dans la sphère professionnelle comme dans la sphère privée d'ailleurs. Hélène pourra nous en parler un peu plus.
Elle va effectivement nous en parler plus en détail. Est-ce que je voudrais qu'on comprenne bien pour ceux qui le savent peut-être pas, qu'est-ce que c'est la périménopause, à partir de quel âge est-ce qu'on peut ressentir justement des symptômes? Parce que c'est vrai que là, on parle de travail, donc voilà, à un âge où on est encore en activité, on peut potentiellement avoir des symptômes liés à la ménopause.
La périménopause, statistiquement, elle arrive vers l'âge de 47 ans. En fonction des femmes, elle peut durer un certain temps. La ménopause, elle se définit par une absence de règles pendant un an, voilà. Et donc après, les signes, on pourrait appeler ça des symptômes, c'est pas une maladie, donc je vais pas utiliser le terme symptôme, mais les signes chez les femmes sont très divers. Il n'y a pas une périménopause ou une ménopause, mais des. Et on voit bien effectivement que en fonction au travail, du niveau d'engagement, du niveau de satisfaction au travail, du niveau de stress, eh bien ces caractéristiques-là, ces causalités externes peuvent impacter aussi l'intensité des signes. Alors je vais en citer peut-être les plus fréquents, les plus fréquemment rencontrés. Vous avez la sphère cognitive qui peut d'abord être très concernée par cette période où le sujet se retrouve confronté à une espèce de brouillard mental avec un sentiment pouvant aller jusqu'à un sentiment d'étrangeté vis-à-vis de lui-même et au niveau de son fonctionnement cognitif, donc tous les processus de pensée. Combien de femmes ont pu témoigner en disant « je ne me reconnais plus, j'avais une très bonne mémoire, aujourd'hui je suis obligée de tout noter, je relève dans mon raisonnement des problèmes de raisonnement logico-rationnel alors qu'auparavant ma pensée était plutôt très fluide, très rapide, je structurais rapidement, aujourd'hui c'est quelque chose de très... de fastidieux, des troubles également au niveau de l'attention, une difficulté à focaliser son attention ou en tout cas autant de temps qu'on pouvait le faire auparavant. Des difficultés rencontrées également au niveau de la mémorisation des informations et du traitement de l'information. Donc pour aller rechercher les informations, ça peut être plus difficile. Et nous sommes dans un monde où il ne vous aura pas échappé que l'accélération temporelle est là, très 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 fréquemment rencontrée. Donc il faut aller vite. Et là, on se retrouve, si vous voulez, prise dans un ralentissement cognitif qui peut assez mal s'articuler avec les exigences du monde professionnel. Ça, c'est uniquement la sphère cognitive. Et j'ai oublié des troubles cognitifs, mais il y en a une série, on pourrait en faire une liste à la Prévert. Ce dont on peut parler également, c'est la variabilité de l'humeur, qui peut être aussi très présente. Donc, des variations d'humeur plus fréquente, plus intense, donc avec un contrôle émotionnel parfois moins bien réalisé, pouvant entraîner des tensions avec les collègues homologues, mais les responsables hiérarchiques, les clients quand on se retrouve à l'interface de l'interne et de l'externe. Donc ça aussi, c'est une dimension qu'il convient de considérer vraiment sérieusement. Par les managers, par les collègues, et par les personnes elles-mêmes qui se doivent de repérer, si vous voulez, un petit peu les différences entre un fonctionnement antérieur et puis le fonctionnement concerné par cette période qu'est la périménopause et la ménopause. Mmh. Et puis la troisième dimension, je vais m'arrêter là parce que la liste elle pourrait être très longue, mais la troisième dimension qui est souvent rencontrée, c'est le sentiment de fatigue, hein, cette fatigabilité qui est en amont, hein, en fait, des troubles cognitifs et de la gestion émotionnelle des situations également, parce que sueur nocturne, parce que troubles du sommeil, et quand on a été habitué à dormir globalement bien, et bien c'est quelque chose d'extrêmement déstabilisant, avec, je dirais, un élément, hein, qui vient vite avec, c'est la dimension anxieuse, parce que tous ces changements eh bien peuvent être très complexes à conscientiser, à métaboliser. La ménopause, la périménopause, j'utilise souvent ce terme, est un tsunami biopsychosocial qu'il n'est pas simple de gérer seul.
Oui, et puis on comprend bien en plus tous les, bon, on parle peut-être pas de symptômes, mais tous les signes que vous évoquez, ce sont des choses qui font qu'il est forcément difficile de continuer à travailler comme avant. La fatigue, l'irritabilité, enfin c'est des choses très compliquées à gérer dans le monde du travail. Donc on comprend bien que ça peut être très compliqué pour ces femmes. Et puis vous dites que ça peut potentiellement concerner une grande partie des femmes en activité finalement, puisque ça peut commencer assez tôt. Enfin, la périménopause, c'est quelque chose qui peut arriver assez tôt. On va peut-être donner la parole à Hélène, puisque je pense que je vous voyais hocher la tête pendant que Marilyn Renard parlait. Hélène, donc vous avez 61 ans aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel a été votre parcours justement avec ce dont parlait Marilyn? Comment est-ce que vous avez vécu la ménopause dans le monde du travail notamment? Comment est-ce que ça a impacté votre activité professionnelle?
Oui, tout à fait. En fait, il y a effectivement différents signes qui apparaissent au fil des années, et au départ, on ne sait pas trop en fait ce qui se passe exactement dans notre corps, aussi bien fait notre santé mentale également, et donc on est amené à percevoir des changements assez radicaux. Je l'admets, parce que au fil donc des années, j'ai commencé à avoir ces troubles cognitifs. Et je ne comprenais pas, en fait, que c'était lié à la ménopause au tout début. Parce que, effectivement, j'étais un poste face à une arrivée de mails et d'informations continues. Et pour arriver à m'organiser, à les gérer, j'étais en mode panique. Je n'arrivais plus à voir les priorités également qui m'étaient demandées. Et donc, petit à petit, j'étais complètement désorganisée. Et je sentais bien que ma hiérarchie commençait un petit peu à s'en apercevoir. Et aussi, un autre signe, c'était l'irritabilité, la colère. Ça également, on m'en a fait l'observation lors d'un entretien individuel. Et moi, j'ai parlé de mal-être, mais je n'ai pas posé le mot ménopause parce que je pensais aussi que c'était lié à une surcharge de travail. C'était plutôt ce point-là que je mettais en avant par rapport à ma hiérarchie. Et donc, tous ces signes, finalement, j'étais un petit peu dans le déni. Et puis également, j'avais beaucoup de lumbago. Et ces lumbago étaient soignés dans l'urgence avec des anti-inflammatoires pour que surtout, je ne manque pas de jours de travail. Parce qu'en fait, je ne m'écoutais pas non plus, par rapport aux signes que me renvoyait mon corps et mon mental. Et j'étais aussi une personne consciencieuse, rigoureuse, donc pour moi, c'était impensable de mettre en avant ces signaux auprès des autres salariés, parce que aussi, je commençais un peu à m'isoler par rapport à tous ces signaux. Et cet isolement a pas été très bien compris par mon environnement professionnel. Et je sentais que j'avais des reproches et c'était très compliqué pour moi d'en parler. Ces bouffées de chaleur aussi, lors des réunions, c'était pas facile à vivre parce que je pouvais pas quitter la salle et je n'avais qu'une envie, c'était d'enlever mes vêtements et d'aller me rafraîchir et je ne pouvais pas, c'est très très perturbant. Et des hommes autour de vous, autour de la table, Bon, on peut pas tout d'un coup dire « Oh là là, ça y est, j'ai une bouffée de chaleur, vite, vite, il faut que j'aille voilà, me rafraîchir ». Non, pour moi, c'était impensable d'évoquer ce sujet. Avec d'autres collègues féminines, j'avais une collègue à qui je pouvais en parler. Mais malgré tout, elle comprenait pas quand même mes accès d'irritabilité de temps en temps. Je finissais par rentrer un petit peu en conflit avec le personnel féminin. Et puis ensuite, j'ai aussi pensé que la médecine du travail, ça aurait été bien qu'il y ait une approche dans ce domaine-là.
Est-ce que vous avez à ce moment-là mis un mot sur vos symptômes, vos ressentis ? Est-ce que quelqu'un vous a parlé de ménopause ?
Non, effectivement, je n'ai pas été amenée à pouvoir dire par rapport au rendez-vous que j'avais avec le médecin du travail notamment, que je ressentais des symptômes liés à la ménopause. Pour moi, c'était dû à une surcharge de travail et à du stress. Et ce stress, pour moi, générait des troubles cognitifs, l'irritabilité, l'isolement, mais imperceptiblement, quand même, je pensais, moi, qu'effectivement, la ménopause devait certainement avoir un rôle à jouer. Et j'aurais dû peut-être, en parler moi-même. Et c'est vrai que ça aurait peut-être aidé à pouvoir poser des mots sur mon ressenti et à faire évoluer le jugement de ma hiérarchie et des autres salariés. Et je pense que ça serait bien peut-être que les médecins du travail et une feuille avec les symptômes, et on coche un peu le niveau en fonction de notre ressenti à partir d'un certain âge. Et ça nous enlèverait, de ce déni que l'on a également, parce qu'actuellement, je pense que, moi, c'est ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on m'a plutôt diagnostiquée comme étant dépressive et étant en burn-out.
Marilyn, est-ce que justement, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Est-ce que la médecine du travail devrait être mieux formée à ces questions autour de la ménopause ? Est-ce que c'est fréquent qu'on confonde finalement burn-out et ménopause ?
Oui, et pas qu'au niveau de la médecine du travail, parce que la médecine du travail n'est pas là, c'est pas elle qui arrête, par exemple, un salarié. Donc, elle ne pose pas forcément de diagnostic, même si elle est tout à fait capable de le faire. Moi, ce que je peux constater, c'est que globalement, dans la société, si vous voulez, les femmes passent souvent par une phase d'errance médicale, où le terme, comme le disait Hélène, c'est très important là ce qu'elle disait, moi c'est quelque chose que j'entends très fréquemment dans les entretiens que je peux avoir avec des femmes en souffrance au travail, en lien aussi avec ce moment de notre existence, c'est que il est très important de pouvoir caractériser ce moment, de pouvoir poser des mots sur des mots MAUX et se dire tout va bien, c'est peut-être pas tout va bien, mais en tout cas, je ne suis pas en train de décompenser une dépression que j'aurais contenue jusqu'alors, ni un trouble bipolaire. Et je vous dis ni un trouble bipolaire, parce que c'est effectivement pour moi assez fréquent de rencontrer des femmes qui arrivent en disant ben voilà, mon médecin, alors soit mon médecin traitant, soit le médecin du travail, soit m'a diagnostiqué comme dépressive ou a interrogé la piste du trouble bipolaire. Bon, donc des étiquetages, je dirais, lourds de conséquences, puisque derrière, aujourd'hui, il est très fréquent qu'on propose à la femme un traitement médicamental. Donc c'est quand même tout sauf banal. Donc quand on écoute le témoignage d'Hélène, moi je trouve ça très intéressant de comprendre que son mal-être, comme elle dit, a certainement été aussi beaucoup relié au fait de ne pas nommer ce par quoi elle était traversée sur un plan hormonal, mais pas que, puisque même si le biologique à un moment donné nous rattrape, le psychique est convoqué, le somatique également. Bon, et vous voyez que tout ça, ça peut déborder rapidement un sujet.
Finalement, ça revient à ce qu'on disait au tout début de l'épisode, c'est ce tabou qu'il y a autour de ces sujets liés à la ménopause qui complique un peu tout, notamment dans le milieu professionnel. Le fait qu'il y ait un tabou autour du terme ménopause empêche de poser un mot dessus et donc de faciliter un peu l'acceptation de cette période.
Absolument. Ne pas repérer, ne pas nommer, parce que par le passé, parlez-en à vos mères et vous verrez qu'elles faisaient avec et point. Ne pas repérer, ne pas nommer, empêche le sujet de se dire « bien, ça va pas être simple, mais je sais que c'est ça, et aujourd'hui, ben, je vais pouvoir mettre en place des stratégies de réajustement efficaces et qui vont pouvoir me permettre de gérer au mieux ce tsunami, comme je disais tout à l'heure. Le terme tsunami est souvent utilisé. Il y a aussi un autre terme que des femmes utilisent et qui permet bien de comprendre la violence par laquelle on est traversé. Certaines me parlent également de castration chimique. Vous voyez, alors donc un terme réservé habituellement au registre masculin. Et qui vient là donc exprimer un processus, alors certes chimique, hormonal, mais où le terme castration rend bien compte de la violence par laquelle certaines femmes peuvent être traversées. Et donc, par rapport à ce que disait Hélène, identifier, caractériser ce moment, c'est certainement pouvoir nous donner la possibilité de nous ressaisir et d'agir face à ces différentes dimensions modifiées vis-à-vis desquelles nous allons devoir nous réadapter.
Est-ce que vous avez, je vous redonnerai la parole Hélène ensuite parce que c'est très intéressant de vous entendre et ça nous permet de bien comprendre les enjeux, est-ce que vous avez des exemples de, parce que c'est vrai qu'on parle de la ménopause ici comme un exemple très fort de la question de la santé des femmes au travail, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets, je pense aux règles, au postpartum, des choses comme ça, où peut-être le tabou a été un peu levé ces dernières années, j'ai l'impression en tout cas qu'on parle beaucoup plus de congés menstruels, ces choses-là, où ça devient plus normal et où peut-être, du coup, le fait de lever ce tabou aide les femmes à mieux vivre ces moments-là. Est-ce qu'il y a des exemples d'autres sujets comme ça?
Alors, sur les deux exemples que vous citez, je trouve que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Un exemple, moi, sur lequel j'interviens depuis longtemps et qui me semble aujourd'hui, au niveau de la communication, facilité, c'est l'approche après une grave maladie, de la reprise professionnelle et des conditions de cette reprise, en prenant en compte justement la fatigabilité, les troubles cognitifs. Si on parle du cancer par exemple, de nombreuses femmes reprenant le travail après un cancer, après un parcours de soins cancer, vont présenter des troubles cognitifs, vont présenter une fatigabilité importante, et aujourd'hui les entreprises, les dirigeants, les managers, enfin les personnes en responsabilité semblent un peu mieux sensibilisées à ces questions et donc plus à même de considérer les modifications et je dirais l'aspect subjectif au travail, comme pouvait l'aborder tout à l'heure Hélène.
Hélène, justement, vous, on ne l'a pas dit, mais vous avez passé 30 ans dans l'entreprise dont vous nous avez parlé. Vous étiez assistante de direction, donc c'est effectivement un poste qui demande quand même de pouvoir se concentrer, avoir des interactions régulières. Comment ça s'est passé, du coup, pour vous, ensuite, après avoir connu ces difficultés? Est-ce que vous avez réussi à en discuter avec quelqu'un, à mettre les choses au clair? Est-ce que vous avez dû prendre des décisions assez radicales?
En fait, quand j'ai senti effectivement que j'avais des signaux de plus en plus importants et qui impactaient mon travail, ma concentration, J'ai signalé que j'avais peut-être des possibilités d'oubli, de risque d'erreur. J'ai été vraiment honnête avec mon entreprise. Mais en fait, ma direction m'a demandé d'être positive. Parce que aussi, vous avez des crises de larmes. Et ça m'est arrivé aussi au travail. Donc ça n'a pas été simple aussi d'admettre cette fragilité face à ma direction, de la montrer. Et j'en étais même arrivée à demander à ma direction s'il ne souhaitait pas que je parte. Parce que justement, malgré mes SOS, je voyais qu'il n'y avait aucune réaction. Et au contraire, voilà, il fallait que je sois toujours productive, dynamique, souriante. Et moi, je n'y arrivais plus. Donc, petit à petit, j'ai commencé un peu à lâcher prise. J'avais une grande lassitude, une grande fatigue aussi. C'est vrai qu'on a parlé du sommeil, ce qui est très, très important. Je dormais plus. Et ce sommeil manquant, on est de plus en plus fatigué. Enfin, voilà, c'est un cercle vicieux. Et finalement, il y a eu un échange un peu houleux avec ma manageuse qui m'a fait comprendre que ma hiérarchie trouvait que j'étais moins disponible et que ma personnalité, mon caractère étaient devenus difficiles. J'ai essayé d'argumenter au mieux en gardant ma dignité, mais en fait, on m'a proposé juste une nouvelle organisation.
Okay.
Sans entendre mon mal-être, justement, que j'avais nommé au préalable auprès donc de cet entretien individuel, et si bien que ça m'a poussée à partir de la société. Parce qu'en fait, j'ai complètement craqué, donc j'ai vu mon médecin traitant, et mon médecin traitant au préalable m'avait toujours parlé de stress. C'est tout.
Oui, il mettait ça sur le compte
du stress. Voilà, du stress. Donc, malgré tout, là, à ce moment-là, elle a vu que j'étais vraiment en grande détresse. Et à partir de là, j'ai été arrêtée et ensuite j'ai quitté ma société, voilà, par un licenciement.
Pour vous, ça a été difficile?
Ça a été un échec.
Ouais.
Sincèrement, ça a été un échec parce que je pensais continuer à travailler, mais je sentais aussi que la surcharge de travail, c'était compliqué à vivre de plus en plus. Et de ce fait, je sentais aussi que mon mental et mon physique ne suivaient plus. Donc, quelque part, je pense que mon médecin traitant m'a sauvée, sincèrement, en me disant « stop ». Parce que ce « stop », moi, je n'arrivais pas à le dire.
Oui. Et aujourd'hui, c'était il y a combien de temps, ça?
Donc, j'étais en arrêt maladie pendant à peu près un an et demi. Donc, c'était à partir du mois de mai 2023. Et ensuite, suite à l'arrêt maladie, j'ai pris la décision en accord avec mon médecin traitant qui m'a beaucoup soutenue et puis d'autres intervenants de prendre la décision de contacter mon médecin du travail. Elle a essayé de me persuader de rester en mi-temps thérapeutique parce qu'elle m'a indiqué que vu mon âge, ça serait très compliqué de retrouver du travail. Donc, elle m'a poussée, voilà, vraiment sincèrement à reprendre en mi-temps thérapeutique. Là, je n'ai pas compris parce que je me suis dit, mais elle ne réalise pas d'où je viens, tout ce que j'ai pu vivre. Et effectivement, elle m'a avoué qu'elle avait vu que j'allais mal. Et là, sur l'instant, je n'ai pas réagi. Et c'est vrai que c'est dommage qu'elle ne soit pas venue vers moi. Voilà, plutôt que de me laisser partir dans le mal-être, dans la souffrance. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, moi, j'ai pris la décision de quitter mon entreprise et en accord avec ma hiérarchie. Je suis restée digne, d'ailleurs, le jour de l'entretien. Ça n'a pas été simple. Je les ai même remerciés de me laisser partir. Voyez-vous jusqu'où je suis allée, parce que quelque part, je voulais partir avec dignité, ne pas craquer devant eux. Mais je me rends compte que finalement, tous ces signaux, il faut vraiment que les femmes les écoutent, suivent leur intuition et aillent voir leur médecin du travail ou en parlent avec leur médecin du traitant très tôt, qu'elles n'attendent pas, sincèrement, qu'elles n'attendent pas.
Marilyn, vous entendez souvent des témoignages de femmes qui en viennent à quitter leur emploi justement à cause de... d'une ménopause trop gênante au quotidien pour pouvoir continuer à travailler.
Lorsque je reçois les, les patientes orientées par leur médecin, soit généraliste, soit médecin du travail, justement, c'est parce qu'elles elles sont en difficulté. Donc l'idée, quand on écoute Hélène, on se rend compte que si le diagnostic avait été correctement posé, parce que Hélène dit « c'est important de s'écouter, c'est important de dire », oui, mais au-delà de s'écouter, il faut savoir, il faut pouvoir poser soi-même, j'ai envie de dire, un diagnostic. Et ça, c'est pas évident. On va chercher ça chez son médecin traitant. On va chercher ça, en effet, comme hypothèse aussi, chez son, auprès du médecin du travail ou auprès d'un psychologue. Et là, je crois que consulter, quand on a mal aux dents, je le dis souvent, il nous vient pas à l'esprit d'aller voir le médecin généraliste. On va directement chez le dentiste. Quand on est en souffrance psychique, quand on traverse un mal-être, le spécialiste concerné, c'est le psychologue. On ne mange pas les gens, et il faudrait aussi que dans la société, les personnes lèvent un petit peu là aussi les résistances et les tabous par rapport à consulter un psy. Donc voilà, aller voir les psychologues, c'est peut-être aussi le meilleur moyen d'obtenir un diagnostic précis. Ou cette hypothèse, puisque on ne manquera pas de vous demander quel est votre âge, on ne manquera pas de questionner l'apparition des signes et de distinguer ce qui vient de vous-même, de l'intérieur du corps, de l'intérieur de votre pensée, repérer les cognitions associées à ce mal-être, et puis quelles sont les causalités externes. Hélène parlait d'un niveau de stress, le médecin généraliste l'a renvoyé à un stress professionnel qui, je pense, était réel. On voit bien, si vous voulez, que ce sont des niveaux qui se surajoutent. Et quand on ne démêle pas les causalités externes des causalités internes, quand on ne repère pas cette période de la périménopause et de la ménopause qui vient exacerber déjà des symptômes reliés aux caractéristiques de l'organisation du travail d'aujourd'hui, eh bien, on ne sait plus par quel bout prendre la problématique. Et le risque, c'est que le sujet, Hélène l'a dit, elle l'a vécu comme un échec. Et là, c'est quand même, je trouve, un prix un peu trop lourd à payer, parce que cela signifie que le sujet endosserait l'entière responsabilité de ce qui lui arrive. Et elle insiste en disant qu'elle a tout fait pour rester digne jusqu'au bout. Et je c'est tout à son honneur, et je comprends très bien qu'elle ait pu se raccrocher à la question de la dignité pour tenir une verticalité là où elle avait certainement le sentiment que tout partait à volo. Donc j'insiste bien sur la nécessité d'aller chercher auprès des professionnels les plus aguerris un diagnostic fin, de distinguer les causalités internes et externes pour ensuite penser les ajustements opérants dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle.
Côté entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire finalement, Marilyn? Qu'est-ce que vous conseillez aux managers, par exemple, quand une salariée traverse cette période? Comment est-ce qu'ils pourraient agir?
Les ajustements donc qui peuvent être opérés au travail peuvent concerner une flexibilité horaire repensée. C'est-à-dire que on se devrait d'être un peu plus sensible donc à l'âge de la personne, puisqu'on a dit que la périménopause et ménopause étaient une période repérée temporellement, donc être sensible à cela et pouvoir en parler librement dans un bureau, évidemment, peut-être pas devant tous les collègues, parce que Hélène en a parlé un peu tout à l'heure, la composante, la présence des hommes n'est peut-être pas simple pour aborder ce sujet, et puis peut-être que les collègues qui sont plus jeunes, à juste titre, ne se sentent pas concernés. Donc, le manager pourrait donc repérer l'âge. Une fois que l'âge est repéré, pouvoir en entretien individuel aborder cette question le plus librement du monde. Comme j'ai souvent tendance à dire aux patients, lorsqu'il y a une complexité, essayons d'en parler le plus simplement possible. Donc, essayer d'incarner déjà cette posture-là, proposer, évaluer, si vous voulez, la fatigabilité. Le mot me manque, mais l'ajustement avec les horaires, les amplitudes horaires, et pourquoi pas proposer, ajuster individuellement des horaires tant que les objectifs sont atteints au final. Redonner de l'autonomie à l'acteur par rapport à son organisation horaire. Ensuite, on peut penser également à des pauses, Hélène en a parlé, à des pauses qui pourraient être plus régulières et qui permettraient de mieux gérer la fatigue ainsi que les troubles cognitifs. Je le disais, on peut difficilement se concentrer autant de temps qu'avant, donc il est évident que les pauses peuvent être une solution qui ne coûte rien, si ce n'est de l'aménagement individualisé. Les aménagements également ergonomiques du poste de travail par rapport aux douleurs articulaires, par rapport aux troubles musculo-squelettiques qui ne s'arrangent pas forcément à cet âge-là, peuvent être revus avec le médecin du travail, avec les ergonomes ou des psychologues du travail également. On peut penser des espaces de repos appropriés. Il y a des entreprises dans d'autres cultures où la sieste peut être possible. Alors, il ne s'agit pas de faire des siestes de 3 heures, mais même les micro-siestes changent énormément de choses pendant cette temporalité-là. Donc, vous voyez des choses au final assez simples. Oui. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que vis-à-vis de vos collaborateurs, si je m'adresse au manager, essayez d'être attentif au langage non-verbal, verbal, aux étonnements que vous pouvez avoir quant aux modifications comportementales. Développez une écoute bienveillante et ouverte pour pouvoir accueillir les difficultés rencontrées par vos collaborateurs. Apporter un soutien moral et professionnel, hein, parce que écouter, entendre, derrière, il faut aller plus loin. Enfin, ça serait bien d'aller plus loin. Hein, c'est-à-dire que professionnellement, si on repère des difficultés, on ne laisse pas la personne seule face à elle-même et à ses propres difficultés. Ce que j'ai beaucoup entendu dans le témoignage d'Hélène et ce que l'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde et dans le monde professionnel, nous cessons de voir apparaître ce que je nomme moi des pathologies de la solitude, où l'individu peut se sentir socialement isolé, stigmatisé même, et où si cela se rajoute au reste, là ça commence à faire beaucoup. En dernier point, en tant que manager, essayez de ne pas être trop intrusif lorsque vous relevez ces signaux et essayez de communiquer clairement à vos collaborateurs qu'en cas de difficulté, la porte est ouverte, mais incarnez surtout ce discours. Et puis un dernier point, orientez vos collaborateurs, si vous n'étiez pas à l'aise avec ce sujet, vers les acteurs pertinents en interne dans l'entreprise, les médecins du travail, les infirmiers, infirmières du travail, le service des ressources humaines. Il peut y avoir aussi des psychologues du travail. Et puis ensuite, en externe, gynécologues, psychologues, médecins traitants, enfin spécialistes qui ont, en fait, c'est pas tant les spécialités qui sont, à mon sens, importantes, mais plus l'approche de ces médecins. Donc des médecins qui vont avoir des spécialistes qui pourront avoir une une approche holistique du sujet.
Hélène, vous, aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce qui vous aurait aidé à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une chose que vous avez identifiée qui aurait pu vous aider à traverser cette période?
Alors, moi, donc, il y aurait deux points. Que le médecin du travail est un questionnaire ménopause. Voilà, pour que l'on se sente assez à l'aise avec cette personne-là pour évoquer les différents signaux. Alors, effectivement, ça pourrait peut-être être mis en place dès 40 ans, parce que je sais que dès 40 ans, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent avoir déjà la périménopause. Et puis, on n'a pas parlé de l'endométriose aussi, qui est très, très importante. Et de ce fait, je pense que ça serait déjà un point très rassurant pour une salariée féminine. Mmh. Et d'autre part, moi, je travaille dans un grand groupe. Donc, avant que je ne quitte la société, il avait été demandé à une psychologue du travail de venir. Et elle nous a interrogés individuellement. Et effectivement, lors de cet entretien, on n'a pas évoqué. Voilà. La périménopause, la ménopause, et moi non plus, je n'ai pas évoqué, j'ai parlé de lassitude, de grande fatigue. Et là, je pense que ça serait bien aussi que les entreprises fassent effectivement venir comme ça des psychologues du travail et que cette personne évoque aussi ce sujet-là. Parce que ça permettrait d'enlever peut-être beaucoup de tabous. Et ensuite, comme cette personne fait un rapport, donc elle peut faire remonter... à la hiérarchie, les difficultés que peuvent rencontrer peut-être certains salariés, certaines salariées dans ce domaine-là. Voilà les deux points auxquels je pense. Je pense qu'il y a certainement d'autres choses aussi à mettre en place. Mais là, bon, ça serait peut-être plus dans le domaine des intervenants médicaux, oui, tels que les gynécologues, psychologues, psychiatres ou autres, intervenants médicaux. Qui pourrait peut-être justement organiser un séminaire, je ne sais pas, peut-être une fois par trimestre, sur ces sujets-là, suivant, bien entendu, il suffit de savoir dans les statistiques, le nombre de femmes, et à une certaine période, on met en place peut-être, une réunion avec ce type d'intervenants dans les entreprises.
En se disant que dès qu'il y a une femme dans, dès qu'il y a des femmes dans l'entreprise, finalement, elle va devoir
aborder ce sujet-là.
Se confronter à ça.
Voilà. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on dit que c'est pas une maladie, effectivement, que toute femme va passer par là. D'ailleurs, il faut pas aussi oublier l'andropause pour les hommes. Voilà, parce qu'eux aussi, je pense qu'ils doivent peut-être ressentir des symptômes. Donc, ça peut être aussi peut-être intéressant d'aborder ce sujet-là au niveau professionnel. Mais effectivement, oui, qu'il y ait une prise de conscience.
Marilyn, est-ce que vous aviez un dernier, un message clé peut-être à faire passer à destination des dirigeants et des RH? Enfin, vous nous avez déjà donné un certain nombre d'idées, de recommandations intéressantes. Pour conclure, peut-être un message clé qui vous semble fondamental dans ce sujet de ménopause et plus globalement de santé des femmes au travail?
Afin de préserver la santé des salariés au travail, au travers de cette question qu'est la ménopause, pour pouvoir maintenir des niveaux d'efficience, puisque Hélène l'a dit, c'est un sujet très important aujourd'hui, commencer par avoir le souci de la question de la subjectivité au travail, c'est-à-dire que ce qui va fonctionner pour quelqu'un ne fonctionnera pas pour quelqu'un d'autre, donc devenir ou s'inscrire dans des approches managériales où la question de la subjectivité du sujet revient dans la réalité psychosociale des entreprises.
Merci beaucoup à toutes les deux pour votre présence ici et pour votre témoignage sur ce sujet qui est encore, on l'a dit, tabou. En tout cas, en entreprise, c'est vraiment compliqué de vivre des difficultés comme la ménopause et c'est important donc de continuer à en parler pour faire évoluer les mentalités. Merci à vous d'avoir été avec nous et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Vous retrouverez plus d'informations sur le site de l'association Didam. Donc, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.